et tu ne m'es pas apparu. Tu te moquais de tout, je crois, tu te moquais de tout, je crois. Demain, je t'en lancerai toi. Par devant ta porte cochère, pour faire tomber tes amis, trois et quatre pavés j'ai mis. Oh, j'exècre tes amis, ma chère. Demain je recommencerai, demain je recommencerai. Et tes amants, je les tuerai. Si tu ne changes pas d'allure, j'écraserai tes yeux, ton front, entre deux pavés qui feront à ton crâne quelques fêlures. Je t'aime, t'aime bien pourtant, je t'aime, t'aime bien pourtant, mais tu m'en as fait tant et tant. Les gendarmes en cavalcade me poursuivront après ce coup pour m'attacher la corde au cou. Je me bâtis ma barricade et sur les pavés je mettrai, et sur les pavés je mettrai mon cœur durci par le regret.
Alors la musique que vous entendez en ce moment, c'est la musique que peut-être Fanny Stevenson a pu entendre lorsqu'elle est arrivée à Paris. C'est Paul Delmette qui chantait cette chanson à l'origine, c'est Lise Gauthier qui l'interprète et c'est ce qu'on entendait dans certains cabarets parisiens à cette époque-là.
J'imagine bien que ça recrée tout à fait l'ambiance qu'elle a trouvée en Europe. Et effectivement, comment dire, je pense qu'elle ne s'est pas trompée en choisissant de quitter San Francisco et de se mettre à vivre une autre vie dans une autre ambiance. Fanny arrive à Paris après un petit détour par Anvers avec ses trois enfants. Elle a très peu d'argent, mais elle se débrouille pour trouver à louer un appartement à Paris. Paris se remet donc de l'explosion de la Commune. C'est une ville en pleine évolution et c'est une ville où énormément d'artistes, de bohèmes, anglo-saxons et autres, viennent visiter, s'installent. C'est vraiment un centre extrêmement vivant.
Donc pour donner quelques jalons chronologiques, on est 1875, quelque chose comme ça, hein, je crois à peu près, si je me souviens bien.
La date exacte, c'est 1875, oui, exactement. Et un drame atteint Fanny très profondément, et dans le livre, en tout cas, c'est bien expliqué qu'il y a beaucoup de témoignages qui montrent qu'elle a souffert horriblement de cet événement. Son deuxième fils meurt, c'est son fils cadet, meurt d'une pneumonie probablement. À l'époque, on ne peut pas soigner les refroidissements trop graves. Il crache du sang pendant des mois et ensuite il meurt. Il est impossible de le soigner. Pour elle, ça a été un événement dramatique. Elle se sent bien sûr un petit peu responsable de cette mort parce que, étant donné qu'elle avait peu d'argent, elle n'avait pas assez de possibilités de nourrir bien ses enfants, de trouver des médicaments éventuellement qui auraient pu l'aider. Et c'est pour elle un hiver de désespoir total. On cite entre autres dans le livre qu'elle doit enterrer son enfant dans un cimetière en campagne. À Paris, il n'y a pas de possibilité de l'enterrer. Elle ne peut pas payer une concession plus que 10 ans. Et pendant les 10 ans qui suivront la mort du petit garçon, elle se demandera chaque année comment elle peut prolonger la possibilité de laisser la tombe où elle est. Et Stevenson payera d'ailleurs plus tard une concession au cimetière de manière à rassurer sa femme. Pour elle, c'était un drame complet. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle portera le deuil de cet enfant. Elle continuera à y penser. Et comme on le disait avant, la famille pour Fanny Stevenson, c'était quelque chose d'absolument fondamental. Et ce troisième enfant avait signifié pour elle une relation totale et très importante. Et ça a été pour elle un très grand drame. Après cette... ce gros désespoir, son mari vient la rejoindre, mais elle refuse de partir avec lui. Pour elle, elle veut se consoler autrement. Elle a besoin de calme et elle part avec ses deux enfants à Grès-sur-Loing, qui est donc un petit village près de Paris, dans la forêt de Fontainebleau, où elle va à ce moment-là découvrir un autre monde, d'autres personnages, et notamment celui qui deviendra donc son deuxième mari, Robert Louis Stevenson. C'est un de ces petits villages à l'auberge familiale dans laquelle s'installaient des peintres et qui vont développer donc l'impressionnisme comme on le connaît aujourd'hui.
Donc il faut s'imaginer la rivière où on emmène
les
au bord de la
paille,
voilà, les chapeaux de paille,
les
où on va peindre les
chevalets,
voilà, c'est vraiment l'image bucolique.
Le soir à l'auberge, tout le monde se montre ses tableaux, parle de ce qu'il a fait, il loue des bateaux aussi, ils font des courses de petits canots sur la rivière. Donc c'est une ambiance à la fois extrêmement familiale et en même temps, c'est pour elle une liberté folle, parce que justement, elle n'a de compte à rendre à personne. Je pense que par rapport au carcan des conventions sociales tellement fort aux États-Unis, c'est pour elle un monde extrêmement nouveau. Et c'est une femme qui s'imprègne de cette ambiance. Et il lui faut pas mal de temps. Elle est en contact avec des jeunes hommes tout à fait différents d'elle. Elle est beaucoup plus âgée que la moyenne des jeunes artistes qui l'entourent.
Une dizaine d'années.
En tout cas, hein, oui, oui. Elle a bientôt 40 ans. Et à cet âge, à l'époque, les femmes de 40 ans étaient considérées comme des femmes mûres et quasiment des grand-mères. D'ailleurs, sa fille a l'âge d'être courtisée. Elle l'est. Et il y a même une petite rivalité entre mère et fille, mais qui dans le livre, à ce moment-là, n'est pas trop grave. Plus tard, Belle aura des mêlées avec sa mère, mais pas par rapport à un éventuel prétendant de sa mère, mais par rapport à d'autres hommes qu'elle a envie d'épouser.
En tant que peintre, Fanny Stevenson ne va pas vivre une carrière réellement de peintre, mais elle peut-être ne réalise pas très bien, on s'en rend pas très bien compte dans le livre, mais quelle place pouvaient avoir des femmes peintres à cette époque, Annette ? Parce qu'en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les jeunes hommes anglo-saxons qui sont dans la même maison qu'elle ne les accueille pas avec grand plaisir.
Au début, ils ont très très peur d'avoir une espèce de douairière qui va leur faire des remarques sur leur mode de vie et ils se sentent effectivement, ils ont très très peur que les contacts soient négatifs et ils ont l'impression qu'elles marchent sur leur brisé. Ça ne sera pas le cas parce que Fanny Stevenson était d'abord une femme très silencieuse qui parlait très peu, qui écoutait beaucoup et qui impressionnait les gens par sa personnalité, mais pas forcément par son langage et ses paroles. Ce n'était pas son mode d'expression. Elle passait plutôt au niveau affectif, probablement pas. Elle faisait de l'impression, mais elle n'avait pas l'intention de convaincre qui que ce soit qu'elle était quelqu'un. Bien, il fallait la découvrir et l'aimer.
Mais à cette époque-là, les femmes, donc on le découvre, n'ont pas une place importante dans le monde de l'art. Je ne sais pas s'il faut préciser à cette époque-là, parce qu'on pourrait dire, y compris jusqu'à aujourd'hui.
Mais entre autres, par exemple, les femmes n'étaient pas admises dans toutes les écoles de peinture. Et c'est à Paris, à l'Académie Julian, donc celle où Fanny et Belle suivaient des cours. C'était ensemble la première académie qui acceptait des femmes comme élèves.
Qui n'acceptait même que des femmes comme élèves.
Parce qu'évidemment, elles ne voulaient pas.
On les séparait
des
hommes.
C'était déjà une initiative.
Alors que Fanny s'était fait rire au nez quand elle s'était présentée à l'école des Beaux-Arts d'Anvers, par exemple.
Ouais, exclue d'accepter une femme. Il faut dire qu'à l'époque, c'était une des façons pour les femmes d'arriver à des formations. On sait qu'aux États-Unis, il y avait par exemple, et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à créer des universités de médecine elles sont uniquement pour les femmes, parce qu'on ne les admettait pas dans les auditoires de collègues masculins. Et ça a été pour elle une des façons d'accéder quand même à la formation. Et ensuite, la mixité est devenue évidemment de mise. Mais c'était déjà une solution d'avoir des écoles pour femmes. Les femmes il y a eu des femmes peintres impressionnistes remarquables que Fanny Stevenson a peut-être côtoyées, mais on n'en parle pas dans sa biographie, mais on pourra peut-être en parler un petit peu après. Il y a actuellement à Paris une exposition sur au musée Marmottan qui présente des tableaux de femmes impressionnistes qui sont d'une facture absolument remarquable, mais elles sont franchement tout à fait inconnues.
Alors nous en reparlerons effectivement un petit peu tout à l'heure. Je crois que ça vaut la peine de profiter de découvrir une certaine histoire d'époque par le biais de cette biographie. Mais peut-être pour ne pas perdre le fil de l'histoire de Fanny, continuons.
Donc elle fait la connaissance de Robert Louis Stevenson. Il faut peut-être dire que ce n'est pas du tout un coup de foudre. Au contraire, ce personnage tout en jambes qui est malade, Robert Louis Stevenson était quelqu'un qui a été de santé extrêmement débile et qui toute sa vie a été obligé de s'aliter, de se soigner, était limité dans ses déplacements, devait souvent se coucher pendant des jours, voire des semaines, parce qu'il se sentait trop mal. Il était atteint, on ne sait pas très bien de quelle maladie, il semble qu'il y a plusieurs hypothèses. C'était quelque chose évidemment en relation avec la
tuberculose, non
peut-être, non, justement, il semble que ses poumons étaient atteints, mais est-ce que c'était une pleurésie chronique ou quelque chose, une bronchite chronique, quelque chose comme ça, mais qu'on ne pouvait pas soigner à l'époque et qui était effectivement extrêmement douloureuse. Peu à peu, elle découvre ce Robert Louis Stevenson et Fanny, il lui faut 2 ans pour accepter que cet homme, elle l'aime et elle a besoin de lui pour faire une deuxième vie. Et elle accepte finalement son amour. Mais avant qu'il y ait, si on veut, une déclaration en bonne et due forme, mais une liaison officielle, eh bien, il y aura une quantité de promenades, de discussions, d'échanges. Et c'est très beau de voir dans le livre comment, peu à peu, il découvre un type de relation. Elle ne connaissait pas du tout la littérature anglaise ou écossaise. Elle découvre peu à peu le talent de Robert Stevenson et elle va donc beaucoup l'aider dans la suite de sa vie. Comme on l'a vu, lui a été extrêmement reconnaissant à Fanny de toute l'aide qu'elle lui a apportée, pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan de la discussion, des idées et des œuvres.
Mais il n'est pas encore connu à cette époque-là, donc elle peut...
Il n'est pas encore connu, mais il est déjà brillant. Et il écrit énormément, il essaye de se faire publier, c'est difficile, mais il connaît à Londres les grands critiques, il a déjà il se place, disons, si on veut, et peu à peu, il arrive quand même à placer ses œuvres. Il vient donc d'une famille riche, il est d'origine écossaise. Ses parents habitent Édimbourg, c'est un fils unique et il rompt complètement avec la tradition. Effectivement, dans ce sens-là, il a beaucoup de difficultés dans les contacts avec ses parents. Et il aura déjà, ses parents ont de la peine à supporter que ce jeune homme brillant ne fasse pas une carrière d'avocat à Édimbourg, mais se mette à dire « je veux vivre de ma plume et je vais traverser l'Europe, raconter mes récits de voyage, louer une péniche, traverser les Cévennes avec un âne, enfin, etc. etc. » Et évidemment, quand il leur annoncera qu'il veut épouser une femme qui a plus de 14 ans de plus que lui et qui est mère de 2 enfants adolescents
américaines
divorcées, effectivement, ça ne plaira pas du tout à monsieur et madame Stevenson. Pourtant, le couple perdurera. Et je crois que c'est aussi un très bel enseignement de ce livre, c'est l'importance qu'ils donnent à leur façon de vivre et la manière dont ils arrivent à convaincre leur famille que leur vie est bonne. Mais ça sera pour Fanny une longue épreuve. Parce que d'abord, elle devra retourner. Donc après 3 ans en Europe, son mari réclame absolument le retour de la famille. Parce que même si Sam Osborne était quelqu'un de pas très recommandable, si on veut, ou qui menait sa vie à lui sur le plan affectif, il avait un amour absolument évident et clair pour ses enfants. Il a souffert du fait que Fanny les emmène en Europe. Et comme son fils et sa fille deviennent maintenant grands, il veut encore participer à leur adolescence. Il veut vivre avec eux cette période-là. Il exige le retour de la famille. Et de nouveau, on se rend compte que c'était quand même très, très difficile à l'époque. Elle, même si elle a plus du tout aucune envie, aucune raison de retourner à San Francisco avec ses deux enfants et de retrouver son mari. Elle accepte l'ultimatum. Elle part, elle quitte Stevenson, elle quitte Paris, en ne sachant pas si elle reviendra un jour, si elle le retrouvera un jour. Et elle arrive à essayer de couper, elle a 40 ans, à essayer de couper de son existence toute cette relation extrêmement positive et qui pour elle était vraiment synonyme de réussite affective avec Stevenson. Et elle doit retourner aux États-Unis. Elle retourne à San Francisco avec ses deux enfants.
Alors là, s'en suit toute une série d'étapes effectivement difficiles, y compris pour Stevenson, qui va venir la rejoindre, qui va vivre dans une misère incroyable et financière et de santé, parce qu'il va être effectivement de nouveau très très malade. Et puis pour Fanny, surtout une chose très importante pendant ce moment-là, c'est finalement la décision de divorcer. Et à cette époque-là, vraiment, on ne divorce pas.
Non, bien sûr, pour elle, c'était donc une décision qu'elle n'avait pas pu prendre sur place en France, malgré les demandes très précises de Stevenson, qui était prêt à l'épouser, qui la considérait moralement comme sa femme. D'ailleurs, il lui écrit des lettres en lui disant « Madame Stevenson », alors qu'ils ne sont pas du tout mariés. Et finalement, elle est tellement révoltée face à son mari, face à sa situation de femme aux États-Unis qui ne peut pas se réaliser, qu'elle se met, effectivement, elle prend un jour la décision de demander le divorce. Qui était une chose donc possible sur le plan légal, mais qui se faisait très très rarement. Et ce sera, effectivement, elle vivra pendant plusieurs mois dans l'angoisse, parce que la menace qu'on lui fait, c'est de la considérer comme indigne de vivre avec ses enfants. Et pour Fanny, c'est choisir entre Stevenson et ses enfants, c'est impossible. Pour elle, elle ne peut pas elle peut pas envisager une rupture pareille. Elle aura d'ailleurs justement à ce moment-là une grosse déprime. Elle va sombrer dans une sorte de folie momentanée. On doit la soigner. Elle s'enferme. Elle ne sort plus de chez elle. Elle est dans une situation extrêmement grave. Et c'est assez remarquable de voir que même si elle tombe parfois dans des états extrêmement noirs, elle s'en sort après. C'est comme si elle est obligée de se reposer un petit moment, de perdre le contact avec la réalité pour après être de nouveau capable de poursuivre sa route. Elle fera ça plusieurs fois dans sa vie et ça a été effectivement, comme à l'époque de la mort de son fils, un moment extrêmement difficile qui finalement se terminera bien. Il faut quand même dire que cette histoire, elle est quand même essentiellement positive.
Il y a eu des obstacles incroyables, voilà, mais effectivement... Oui.
Comme dans un roman bien conçu, eh bien, après des moments très noirs, eh bien, on arrive quand même à quelque chose de positif et tout s'arrange.
Voilà. Alors, s'ensuit ensuite une série d'aventures incroyables aux côtés de Robert Louis Stevenson. Mais pour vous mettre dans l'atmosphère du début de ces aventures, eh bien, je vous propose d'écouter un petit peu de musique qui nous met dans cette ambiance. Et vous allez, j'imagine, tout de suite découvrir où ils vont partir.
Mater ei, pua te a te tei, te whenua e, te e tau tap of a tau aroha, me wā e manawa te whare reira a.
S'embarque. Robert Louis est toujours malade. elle a essayé de différents climats. Ils sont allés dans le sud de la France, ils sont allés à Davos en Suisse, ils ont même essayé le Canada dans les frimas quotidiens. Tout ça ne le guérit absolument pas. Il est toujours dans un état pitoyable.
Même Davos et la Suisse n'a pas réussi à le soigner.
Et finalement, il retourne à San Francisco et elle décide de partir avec lui, de louer un bateau, une corvette, et de partir dans les îles du Pacifique où il fait beau, où il fait chaud. Et elle a eu l'idée de génie. Effectivement, là, sa santé s'est en partie remise. Sa fameuse bronchite, pleurésie continuelle où il crachait le sang, se calme. Alors, les voilà sur leur bateau. Avec ses 2 douzaines de cartons à chapeau, la douairière, c'est la mère de Stevenson qui les accompagnait, encombrait les rayonnages de la salle des cartes. Elle y trimbalait 24 bonnets amidonnés et tuyautés, de quoi tenir 6 mois sous les tropiques en coiffe de veuve semblable à celle de la reine Victoria. Au reste, tante Maggie, puisque tel était le nom que lui donnait la bande, n'avait pas semblé souffrir de la tempête des premiers jours. On l'avait vue adossée aux filières, tout à l'avant du bateau, son profil d'oiseau battu par les longs pans d'organdi blanc de son chapeau, riant silencieusement, tandis que la proue plongeait dans de grandes vagues concentriques. Et la servante, une servante sur un bateau. Celle-là, on s'en débarrasserait à la première escale. Ajoutez à ce cirque le fils du premier lit de madame, un grand échalas de 20 ans, si myope qu'il portait des loupes en guise de lunettes. Ce snobinard à l'accent britannique avait trouvé chic de se faire percer l'oreille sur le port de San Francisco. Il arborait un anneau d'or au lobe droit. Venait enfin le clou de la ménagerie, cette Mrs. RLS, de 10 ans plus âgée que son mari, qui s'était occupée d'embarquer 7 mois de vivres pour 11 personnes. Près de 10 000 repas, des rations quotidiennes de chic et de tabac, des centaines de cadeaux pour les indigènes. Depuis que le thermomètre atteignait 30 degrés, cette dame se promenait sans bas, sans corset, pieds nus, le corps noyé dans l'une de ces vastes chemises de nuit que les missionnaires imposaient aux indigènes, le holoku. Voilà.
Alors j'espère bien sûr que la musique vous aura permis de découvrir où vogue, vers quelles îles vogue Fanny Stevenson et le clan Stevenson. Ils quittent donc San Francisco et ils vont d'abord arriver à Hawaï, c'est ça la première,
oui,
une des premières îles,
à Honolulu.
Et ils vont même être sur la plage de Waikiki, cette plage que vous retrouvez partout sur toutes les pubs, tous les machins, les trucs d'aujourd'hui. Évidemment, c'est pas du tout cette plage-là que eux vont arpenter. On les retrouvera ensuite à Tahiti, on les retrouvera aux îles Salomon et on les retrouvera aux îles Samoa.
Ils voyagent beaucoup. Et il décide entre autres, après avoir fait plusieurs essais, de s'installer à Samoa et d'y construire ce qu'ils appellent la folie Stevenson à Vailima, c'est-à-dire une maison, une grande ferme, et une ferme avec pas mal de dépendances. Il fallait être aussi énergique ou aussi fou que Fanny Stevenson et son mari pour se lancer dans la construction d'une maison sur cette île, alors qu'il y a, c'est en fait une véritable forêt vierge. Les Samoa ont un climat qui convenait donc à Stevenson, mais c'est aussi un climat qui a des problèmes avec des genres de moussons, des pluies absolument folles. Et là-bas, à cette époque-là, les îles Samoa étaient donc habité par des indigènes qui vivaient d'une manière extrêmement simple et molle. Ils vivaient sur la plage, ils vivaient de ce qu'ils trouvaient dans leur île et n'étaient pas spécialement intéressés à aider les Stevenson à faire une route, à couper les lianes et puis à s'installer là-bas. Par contre, il faut quand même dire que très vite, Fanny et Robert Louis Stevenson entrent en contact avec ces indigènes. Et c'est aussi une des caractéristiques de cette femme. Toujours, elle s'est intéressée aux gens qu'elle côtoyait dans leur milieu. Déjà, quand elle était à Austin avec son mari dans ce chercheur d'or, eh bien, elle s'intéressait aux Indiens, pas seulement pour les exploiter ou pour les utiliser, mais pour, par exemple, connaître comment ils faisaient la cuisine. Donc, on a vu qu'elle faisait partout des petits potagers, qu'elle aimait beaucoup faire la cuisine, qu'elle s'intéressait à tout cela et qu'elle voulait apprendre des gens du pays qu'est-ce qu'on faisait.
Elle utilisera même, je crois, des médicaments. Non, elle a même appris à utiliser certaines des plantes,
oui,
pour soigner.
Et puis à utiliser des fruits et des légumes complètement inconnus pour elle, bien sûr. Elle avait une ouverture d'esprit et une détermination effectivement farouche pour ne pas forcément copier ce qu'on faisait ailleurs chez elle, mais plutôt s'adapter au pays où elle vivait. Et donc les Stevenson vont encourager les Samoa se partageaient entre différentes ethnies. Il y avait plusieurs familles royales qui cherchaient à garder le pouvoir aux Samoa. Ensuite, les Anglais sont arrivés. Il y avait aussi tout proche à l'époque une colonie allemande et les troubles en Europe commençaient. On ne savait pas très bien qui allait faire la loi sur les Samoa. Et les Stevenson se sont en fait rapprochés des indigènes, ont aidé les indigènes à manifester à un moment donné et ont prouvé leur attachement à eux en les invitant dans des fêtes, en étant invités eux-mêmes par les représentants des indigènes plutôt que de rester avec les Britanniques. Eux étaient britanniques, hein, puisque lui était écossais. Et ils ont refusé de participer en fait à l'exploitation des gens là-bas.
Mais on peut même dire qu'ils étaient quasiment engagés dans une lutte anticolonialiste aux côtés de ces indigènes, puisque si je me souviens bien, ils n'ont pas hésité à aller rendre visite aux chefs indigènes en prison pour leur apporter de la nourriture, pour les soigner, alors même que ces chefs-là avaient été emprisonnés par justement les trois puissances coloniales qui étaient au Samoa.
Ils se considéraient comme tout à fait proches de ces gens-là et ils n'étaient pas d'accord d'adhérer à la politique de leur pays. Ils ont même risqué eux-mêmes la prison, même je crois qu'ils
l'expulsion même, oui, je crois aussi. Oui.
Ils ont eu des difficultés, mais pour eux ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était d'affirmer leur rapport et leur amitié pour ces gens du pays. Mais donc ils arriveront à construire la maison comme ils le voulaient. Elle sera superbe. Ils importeront une quantité de meubles de chez eux. Fanny parviendra même à faire une plantation de cacao. Elle fera pousser plusieurs légumes d'une manière, disons, presque professionnelle. Elle fera une fois de plus un fameux jardin potager qui nourrira pas mal de gens.
Et toute la famille et toute la famille des serviteurs. Parce
voilà,
que dans ce pays, c'est comme ça qu'on conçoit l'accueil de tout le monde. Plus d'une cinquantaine de personnes, non, il me semble
en
qu'elle
tout
dit
cas, oui, elle raconte qu'effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de monde.